Bonjour à toutes et à tous. V plus W, ce sont sans doute les initiales les plus connues des Tchèques pour Jan Verich et Jiří Voskovec, les deux comédiens et comiques les plus appréciés et les plus renommés dans l'entre-deux-guerres. Daniel Montmartre est spécialiste du théâtre tchèque et notamment du théâtre libéré, Osvobozené divadlo, le théâtre d'avant-garde auquel leur destin est irrémédiablement associé. Après des études de russe et de tchèque, Daniel Montmartre s'est intéressé à ce théâtre dont sous le communisme, on ne parlait qu'à voix basse. Elle a eu la chance de rencontrer Jan Verich et de parler avec Jiří Voskovec avant leur disparition au tout début des années 80. Pour son travail d'analyse et de diffusion autour du théâtre tchèque, elle a reçu récemment du ministère de la Culture une médaille honorifique. Nous avons eu la chance de pouvoir lui parler lors de son court passage à Prague et de lui demander comment elle avait découvert ce fameux théâtre libéré.
Quand je suis venue ici en République démocratique tchécoslovaque, n'est-ce pas, à Prague, en 1966, je suis venue chez un cousin, un vieux cousin, du peintre figuratif Miloš Jiránek. Et c'était dans un petit appartement de la Malastrana. Il m'a dit, bon, très bien, tu apprends le russe, très bien. Mais tu sais, parler tchèque, c'est un luxe. Mluvit český je to luxus. Parce que seuls 15 millions de personnes sur notre terre parlent le tchèque. Et je me suis souvenu de ça. Il avait un cahier, un journal intime. Et de son journal intime, il nous a lu à sa cousine et à moi. Donc il nous a lu les pages sur le théâtre libéré de Prague. Et j'ai toujours voulu en savoir plus, alors je me suis dit que quand je terminerai mes études de tchèque, je commencerai un doctorat sur le théâtre libéré de Prague.
Alors, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est ce théâtre libéré, est-ce que vous pourriez un petit peu revenir de manière succincte, je ne sais pas si c'est possible, sur ce qu'était le théâtre libéré, qui est évidemment très associé donc à ces deux personnalités du théâtre tchèque, Verich et Voskovec. Quand a-t-il été créé et pourquoi ?
Alors, ce théâtre libéré, c'était déjà un théâtre d'avant-garde. Il faut dire que l'avant-garde tchèque de l'époque voulait casser l'axe culturel Berlin-Prague-Vienne au profit de celui Paris-Prague-Moscou. Ça, c'est essentiel. Et il y a eu des rapprochements de cette avant-garde tchèque entre Paris, notamment les surréalistes parisiens.
Les Dada.
Surtout les surréalistes bretons, Soupeaux, tous ces gens-là. Vraiment, il y a eu des essais qui ont été essentiels concernant le théâtre tchèque, les nouveautés du théâtre tchèque, vraiment la biomécanique de Meyerhold, elle est enseignée, tout ça, toutes ces choses-là. On voulait la modernité. On voulait, comme disait Taïge, un véritable poème sur scène qui fasse appel aux cinq sens.
Une sorte de théâtre très complet, en fait.
Voilà. Une sorte de Gesamtkunstwerk, ce à quoi ils sont parvenus plus tard. Il y a trois metteurs en scène qui vont se détacher de cette avant-garde, à savoir Hunzel, Freyka et Bourjan. Et c'est surtout Freyka qui, le premier, a décidé de l'appellation de théâtre libéré.
Et pourquoi libéré, justement?
Libéré de toutes les conventions.
Libertaire, finalement.
Oui, assez à la... Oui, parce que Freyka l'était, mais il a une autre destinée. De tous ces essais, Voskovec et Verich faisaient partie. Ils ont créé, en 1925, un sketch, parce qu'ils étaient amis de longue date. Et Voskovec a convié Verich à jouer à l'Institut français de Prague, devant le buste de Molière, devant le professeur Eisenman, qui était un grand slaviste et très ami fervent de la cause tchécoslovaque.
Et qui était le directeur de l'Institut français à l'époque.
Voilà, exactement. Et ça s'appelait « Dialogue impropre pour une tombe ». Ils ont créé un style de la reine. Ils ont installé, ils sont mis au milieu, ils ont joué au milieu, ils ont mis l'assistance autour, comme dans un cirque, et tout le monde était écroulé de rire. Ils se sont dit, on va perfectionner ça.
Sur quoi reposait justement ce duo Verich-Voskovets, puisque les deux avaient des caractères très différents, des physiques très différents aussi?
Ils avaient des physiques très différents, ils avaient des caractères très différents, mais ils se complétaient. Dans l'un de ces entretiens, Verich m'a dit, c'est comme si nous jouions sur la même corde d'un violon. Je trouve que c'est très poétique et ça signifie beaucoup.
Pour revenir un petit peu au Osvobozhené Divadlo, donc le théâtre libéré, une des caractéristiques, vous dites en effet, c'est un théâtre d'avant-garde, une des caractéristiques qui est très liée aussi finalement à cette ère du temps des années de l'entre-deux-guerres, c'est que c'est un théâtre aussi très politique, d'une certaine façon. En tout cas, où la politique déjà rentre dedans, mais en sort aussi d'une certaine façon.
Elle n'est pas rentrée tout de suite, attention, parce que Voskovets et Verich, au départ, ont écrit des revues. Ils jouaient, il faut dire qu'ils jouaient, ils écrivaient, alors ils écrivaient leurs pièces, ils écrivaient leurs chansons, et puis c'était surtout des revues musicales où il y avait six filles qui dansaient, les Yenchi Girls. Alors tout ça, c'est venu progressivement, hein, mais c'était... vraiment de belles revues musicales avec des scénographies luxuriantes et des costumes exubérants.
Pour revenir donc quand même sur cet aspect politique, voilà, puisque il y a quand même beaucoup de pièces qui étaient des satires aussi politiques.
Alors au départ, Voskovets et Verich écrivaient des revues exotiques ou légendaires, et puis c'est la situation politique du début des années 30 qui les a amenés à se diriger vers la satire engagée. Au début, Voskovets ne voulait pas. Et puis, critiques communistes telles que Fouchik les incita à se réveiller. Martelaire, réveillez-vous. Bientôt, il va être trop tard, etc. Et puis, c'est Verich qui a décidé d'accéder à cette satire engagée quand il y a eu la révolte des ouvriers de Dolny Lipova. Alors donc ils se sont dit vraiment il y a eu des ouvriers tués et ils se sont dit on va
agir. Ils se sont aussi également exprimés sur l'actualité internationale, parce que puisque je crois savoir qu'ils ont fait des revues sur Hitler.
Alors ils ont osé, dans L'âne et son ombre, en 1933, incarner Hitler dans un âne crevé. Ils avaient un véritable âne sur scène. Verich l'appelait Ios, il lui donnait une carotte pour qu'il arrive sur scène, et Verich, le plus costaud, montait sur cet âne, et cet âne il a fini dans un zoo, et ils ont eu du mal à l'adapter.
Quelle réaction cette revue a suscité?
Alors, ça a suscité une réaction internationale, notamment une réaction de la part des Allemands, hein, de la part d'Hitler lui-même, qui a demandé à ce que la pièce soit retirée du répertoire. Et là, Edouard Benesch, qui était le ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque avant d'être second président, est allé en personne voir la pièce, et il a dit non, écoutez, nous ne pouvons pas la retirer du répertoire, je ne vois rien qui puisse faire de l'ombre à Monsieur Hitler. En fait, bon, tout le monde avait compris. C'est allé crescendo jusqu'aux accords de Munich, et à la suite des accords de Munich, bien sûr, Hitler a fait ressortir une loi de Metternich pour fermer le théâtre. Il ne restait plus qu'à Voskovets et Verich de partir, et à leur famille. Sinon, ils auraient eu des
ils auraient eu des graves problèmes. Ouais. Mmh. Alors justement, puisque vous arrivez à 1938, donc évidemment pendant la guerre, le théâtre fonctionne pas et Voskovets semble d'ailleurs fera partie de la résistance. Enfin en France, je sais plus exactement.
Ils ont le temps d'aller leurs idoles. Ce sont les frères Fratellini au cirque Medrano. Alors, Voskovets fait connaissance avec les frères Fratellini lors de son premier séjour en France lorsqu'il est élève du lycée Carnot de Dijon, parce que l'un des amis de la famille Voskovets veille sur le jeune Georges, Georges, et... c'est Shima, le peintre Shima.
Joseph Shima,
oui. Oui, Joseph Shima, qui veille sur lui et qui l'emmène à Paris voir les frères Fratellini au cirque Medrano. Alors avant de regagner, ils partent aux États-Unis pendant la guerre. Et pendant la guerre, ils s'envoient des émissions pour destinées aux Tchécoslovaques restés dans leur pays. Ils sont quand même rentrés à Prague, Wehrich en premier.
En 1945,
ils sont rentrés à Prague. Et puis,
Est-ce qu'il y a une possibilité justement de reprendre le théâtre à ce moment-là?
Alors, oui, ils ont voulu reprendre le théâtre, le reformer. Ils ont joué L'homme qui vient pour dîner 250 fois dans le théâtre qui s'appelait le théâtre de Voskovets et Wehrich. Mais alors, comme l'a dit Voskovets lors de l'un de nos entretiens à New York, il savait que la situation était complètement changée, qu'il n'allait plus pouvoir s'exprimer, donc il a choisi l'exil. D'abord, il est allé à l'UNESCO.
C'est vrai que finalement l'histoire va séparer ces deux inséparables, puisque Wehrich, lui, par contre, restera à Prague.
Oui, il restera à Prague. Il aura une période assez creuse. On lui demandera d'aller se produire sur scène, d'aller chanter avec un orchestre, etc. Et puis il reformera un autre duo avec Miroslav Hornicek. Donc ce sera le duo W+H.
Ne toliko, že je tma, ale nevidím.